S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le collège, je dirais que dans l'ordre des institutions, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire.
Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti.
Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Baudelaire proposait de plonger au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Alors qu'est-ce que produire du nouveau et comment s'y prend-on, demande Pierre-Michel Minger. Comment une œuvre d'art doit-elle être assez déconcertante pour qu'on n'y sente pas la technique, mais suffisamment maîtrisée pour qu'on puisse penser qu'elle n'est pas le fruit du hasard? Quelle flèche du temps adopter quand on aborde le travail artistique? L'activité créatrice n'est pas standardisable, alors comment maîtriser le temps que je vais donner à ma création, demande encore Pierre-Michel Minger. Comment intervient alors la définition de Kant de l'art comme une finalité sans fin? Directeur d'études à l'EHESS et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Minger nous entraîne dans une grande enquête autour de la question « Comment achever une œuvre, notamment en régime d'originalité ?» Le sociologue rappelle que les artistes doivent incorporer le travail dans une architecture plus vaste qui s'organise d'œuvre en œuvre. Il faut à la fois, et parfois en finir, avec chaque œuvre, et il faut compter sur un exercice durable de la créativité. Il faut enchaîner les projets, nous dit-il, et les varier suffisamment. Il faut finir et recommencer. Le cours précédent était donc revenu sur la notion de finalité sans fin que nous allons retrouver aujourd'hui. Pierre-Michel Minger examine la lignée de l'héritage, la notion du travail d'autrui. Il se demande comment procède l'artiste pour parvenir à cette création expressive qui s'écarte d'une simple communication d'idées claires et bien formées et d'une simple application de règles bien spécifiées. Quelle est la critique de la rationalité calculatrice, planificatrice et utilitariste? Pourquoi l'art apparaît-il comme un domaine d'activité ambivalent aux yeux du sociologue Durkheim? Quelle est la nature du contrôle qui règle le cours incertain et tâtonnant de l'activité créatrice? Ici, sans doute, s'ouvre la part de mystère et d'indicible dans le processus créateur. Nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 29 mars 2019 pour le cours de Pierre-Michel Minger. Comment achever une œuvre aujourd'hui? Qu'est-ce que produire du nouveau?
Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord proposer une image, enfin une série d'images, qui montre à quel point on est dans un monde de très grande variabilité. J'ai pris les arts plastiques parce que c'est plus évocateur immédiatement. C'est la vertu de la simultanéité de l'information, comme on sait, alors que la musique, il faudrait que je vous fasse écouter beaucoup de choses, ou la littérature, c'est la même chose. Ici, l'information est visuelle et donc elle est immédiatement appréhendable. Et ici, vous avez une œuvre classique qui a été d'ailleurs reproduite par ces peintres chinois dont j'ai déjà parlé, qui est une œuvre durable dans un musée, donc candidate à cette particularité remarquable des œuvres, notamment consacrées, c'est de durer et de traverser le temps. En étant donc ancré dans une actualité historique et en même temps en étant capable de la dépasser tout en y référant. Ici, vous avez ce que j'ai brièvement esquissé, je n'ai pas eu le temps d'y revenir, mais cet atelier chinois de copies qui produit des millions de copies chaque année et qui a donné lieu à une recherche dont je ne pourrais pas parler cette fois-ci, mais qui joue notamment sur le problème de savoir si ces artistes ou si ces peintres sont originaux ou non. Et la conclusion est, premièrement, le critère d'originalité mérite d'être déconstruit, entre guillemets, et deuxièmement, en fait, ils sont quelque chose de plus que de simples machines à reproduire. Donc on a des degrés dans l'activité créatrice qui peuvent être revisités en permanence. Ici, vous avez une œuvre d'art conceptuel de Joseph Kossuth, titled Art as Idea as Idea, The Word Definition. Voilà, c'est une œuvre conceptuelle. Et ici, vous avez une des œuvres par lesquelles Duchamp a rompu en quelque sorte le pacte artistique qui précédait son temps, qui était en gros celui-là, c'est-à-dire produire des œuvres qui n'ont pas de référent extra-artistique. Tout ça, c'est une manière de vous dire qu'on a affaire, évidemment, dans le monde des arts, c'est sa séduction considérable et en même temps c'est son défi pour l'analyse, à une grande variété de styles, à une grande variété de médiums artistiques qui chacun ont leurs caractéristiques. Je viens de parler des problèmes de simultanéité ou de succession de l'information. Nous avons affaire à des segments de production qui se comportent de manière extraordinairement différente et nous avons affaire à des candidats à la durabilité et à la conservation qui sont eux aussi très, très différents. Alors, la question est toujours, est-ce qu'il y a des invariants ? Ou plutôt, est-ce qu'il y a des noyaux durs de la pratique artistique et des comportements artistiques qui peuvent constituer des particularités, la particularité de la sphère de l'art, au sens weberien du terme sphère de l'art. Vous savez, il y a dans Weber une analyse de la séparation entre les sphères de l'art, de la religion, de la science, de la politique, de l'économie, dans les temps modernes, avec ce que ça suppose de clôture, d'autonomisation et de professionnalisation dans chacune de ces sphères. Et donc, est-ce que dans la sphère des arts, nous pouvons discerner un certain nombre de propriétés qui, à la fois, sont contingentes à des périodes et en même temps ont une actualité beaucoup plus longue ? On en a discerné des traits quand j'ai fait varier la focale temporelle depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui sur la question de l'inachèvement, mais on peut en avoir d'autres preuves. Et c'est ce problème qu'il faut traiter. Évidemment, le sociologue est par définition sensible à la contingence historique et socio-historique des faits, et en même temps, il cherche à capter ce qui peut constituer des noyaux d'invariance. Alors, j'achevais mon cours précédent sur la question de la distinction entre art et techné et sur la notion de finalité sans fin que j'ai rapidement évoquée. Je voudrais poursuivre maintenant, dans un premier temps, en explorant un peu plus cette notion, parce que finalité sans fin indique une activité orientée vers un but, mais un but qui n'est pas un dessein avec EIN, une cible directement spécifiée, puisque la mesure de sa réussite ou de la qualité de son achèvement n'est pas l'adéquation à une fonction à remplir, plus ou moins efficacement, ça c'est les objets techniques, ou l'adéquation à des standards à respecter. Mais finalité sans fin ne veut pas non plus dire activité essentiellement et radicalement interminable. Et donc la butée temporelle de la terminaison nécessaire ou impérative, si l'activité est contractualisée, est un guide, celui que contient la sémantique du projet, de la projection en avant de soi vers un terme, et aussi celui de l'induction, comme on dit, de l'induction récursive. Une fois qu'on a fixé l'objectif de finir quelque chose, les séquences nécessaires à l'accomplissement du projet doivent s'ordonner. Toutes sortes d'étapes, collecte de matériaux, préparation de dossiers, rédaction, remaniement, achèvement, révision, etc. Et donc, face à cette manière d'appréhender la question, et au vu des résultats, quelle est la flèche du temps qu'il faut adopter pour comprendre comment s'est comporté l'artiste au travail ? Est-ce que c'est celle du cours réel de l'activité qui avance vers un terme ? Dans ce cas-là, on est dans un modèle en quelque sorte causal propulsif, ou est-ce que c'est l'analyse rétrospective ou causale rétrospective, donc ? Et d'ailleurs, sommes-nous à l'aise avec un raisonnement causal classique ? C'est un des enjeux classiques de l'analyse des phénomènes d'innovation et de nouveauté. Elles doivent avoir une propriété émergente, c'est-à-dire ne pas pouvoir se déduire intégralement de toute l'information contenue dans la période immédiatement précédente pour que quelque chose de surprenant puisse arriver. Est-ce que c'est simplement une limite de notre savoir, une sorte d'incertitude épistémique, ou est-ce que c'est une incertitude ontologique, c'est-à-dire plus radicale, qui fait qu'il y a des causes qui donnent lieu, par la sensibilité à des petites variations, à des phénomènes impossibles à prévoir. Est-ce que nous sommes dans un monde quantique quand nous sommes dans le monde de l'art ? On peut jouer avec ces questions-là à l'infini, mais je vous donne juste quelques traces du problème. Si la compréhension exacte de tous les mécanismes de l'invention artistique était disponible, alors ça voudrait dire que l'art pourrait être soumis absolument sans défaut et sans imperfection à l'explication causale. Par exemple, il suffirait de disposer d'un ensemble de savoirs ou de règles théoriques qui prescrivent comment réaliser l'œuvre pour détenir l'explication causale de sa réalisation. Il y aurait donc une connaissance du résultat possible à atteindre a priori. à travers cette application mécanique de règles et l'exécution de tous les actes nécessaires à la réalisation de l'œuvre. Et tout ça serait placé sous un régime causal. Une des explications du fait que, comme je l'ai montré, les artistes craignent toujours qu'il y ait trop d'œuvres et trop d'artistes, et puisque eux veulent se faire une place dans le métier et qu'en même temps ils voient que beaucoup d'autres agissent comme eux, une des explications, c'est que précisément, tous ceux qui produisent de l'art ou qui mettent en œuvre des moyens pour les artistes de travailler, eux-mêmes sont incertains sur qui va donc émerger et donc mettent en jeu énormément de carrières possibles et d'individus dans le grand jeu et le grand chaudron de la professionnalisation. Et donc eux-mêmes ne détiennent pas les clés du succès, ils explorent, mais en même temps ils veulent resserrer. Ensuite, dès qu'ils détectent quelque chose qui peut être ou profitable ou intéressant, ils vont exploiter cette formule-là, autrement dit une réussite, etc., pour la reproduire. Donc, ils vont jouer sur l'incertitude au départ, et puis ensuite, ils vont jouer sur la réduction ensuite. Et évidemment, si on regarde la phase de réduction, c'est-à-dire exploiter une formule à succès, un style de roman qui a du succès, etc., etc., on va dire, ah ben, tout ça est causalement explicable. Si vous êtes dans la première phase, c'est beaucoup plus difficile, puisqu'il a fallu engendrer quelque chose qui surprend. Sinon, le jeu serait clos. Et ça serait la reproduction à l'infini de situations, de rentes, pour ceux qui ont émergé les premiers. Or, ça ne se passe pas comme ça. Comme le souligne Gérard Lebrun, auquel je vais faire référence dans un très grand livre qui est Kant et la fin de la métaphysique, il y a quelques très grands livres sur Kant auxquels vous pouvez vous référer. Celui-là en est un autre est celui de Béatrice Longuenesse, Kant et le pouvoir de juger, qui sont des ouvrages que le monde de la philosophie considère comme des achèvements majeurs. Donc, comme le souligne Gérard Lebrun dans ce livre, l'acte de production artistique n'est justement pas la simple exécution d'instructions. C'est à partir de l'analyse de la troisième critique de Kant qu'il va explorer le problème. Le XVIIIe siècle, donc Kant offre une synthèse et un dépassement d'une certaine manière, le XVIIIe siècle a voulu réfuter la doctrine médiévale de l'art. J'avais cité les propos d'Aristote, mais la doctrine médiévale de l'art, si on passe le fil temporel dans l'ordre, et de la technique, en fait, agit comme un repoussoir pour la philosophie du XVIIIe siècle et celle de Kant. Parce que la philosophie médiévale de l'art, elle, avait une identification assez radicale de l'art à une technique. Et c'est saint Thomas qui, par exemple, affirme que l'art est une ratio recta factibilium, raison droite des choses à faire ou la juste connaissance de ce qui doit être fait. Donc, vous voyez bien, des connaissances, un objectif et en avant. Si on a la bonne méthode, on y arrive. Et ici, je vais vous donner quelques éléments de connaissance à partir de ce que Umberto Eco, qui a eu plusieurs vies, a écrit sur la pensée au Moyen-Âge. La définition médiévale, comme il le dit, inscrit l'art dans le domaine du faire et non pas dans le domaine de l'agir. L'art n'est pas expression, vous savez maintenant que ultérieurement ça sera bien différent, mais opération sur des matériaux physiques. Que ce soit une sculpture, une construction d'une maison ou d'un navire, ou des matériaux mentaux. On fait de même en logique ou en rhétorique. Tout ça en vue d'un résultat. Ça, c'est la doctrine médiévale de l'art. Donc il faut un élément cognitif. Hier, je parlais de questions que je traite aujourd'hui avec Jean-Pierre Changeux, et il me disait « As-tu pensé à la dimension cognitive de tout ça ?» puisque c'est un spécialiste de ces questions. Et évidemment, quand on traite de l'art, on ne traite pas de machines programmables, mais on traite d'humains qui ont plusieurs dimensions de comportement, cognitif, émotionnel, conscient, inconscient, infraconscient. Donc ici, on a un élément cognitif, c'est la fameuse ratio, Kant dira l'entendement, et un second élément productif, il faut en faire quelque chose, donc il y a des choses à faire. Et la théorie s'appuie là-dessus. Donc l'art, comme je le disais, s'inscrit dans ce domaine du faire, mais pas de l'agir, parce que dans la doctrine médiévale, l'agir relève de la moralité et de cette virtus régulatrice qu'est la prudence. C'est la bonne manière d'agir, recta ratio agibilium, juste connaissance des actions à accomplir. Ce point est important. Il y a des éléments de prudence dans le comportement pratique et le jugement pratique qui dirige les situations contingentes. C'est l'analyse que mène Umberto Eco. Qu'est-ce qu'il convient de faire, etc. Mais l'art ne vise qu'à un bonum operis, c'est-à-dire l'important, c'est de façonner un bon objet. Donc, on peut adopter un jugement de connaissance, mais en fonction d'un but qu'il faut atteindre le mieux possible. Donc il y a un élément de faire orienté vers un maximum. Et ça, c'est la doctrine médiévale de l'art. On va voir que cette doctrine doit être remaniée de plusieurs manières pour atteindre cette idée d'un agir productif qui contient des éléments de plus grande indétermination. Cette propriété d'agir productif, c'est celle qui n'est pas strictement déterminable causalement et qui est incorporée au XVIIIe siècle dans la conception de l'acte artistique. Et la dimension causale, cette nécessité causale qui nous sert à explorer des actes, comme le rappelle Lebrun dans son livre, elle est toujours rétrospective, en fait, quand elle veut expliquer intégralement quelque chose, le résultat à partir d'une séquence d'actes. Alors que l'acte productif, l'agir productif, lui, il s'inscrit dans une temporalité prospective. Dans la nécessité causale, la succession se confond avec l'ordre du temps, alors que dans l'acte producteur, la succession des actes s'insère dans le cours du temps où l'effet est incertain. C'est précisément ce que je disais tout à l'heure. Tout n'est pas déterminable a priori. Et où l'ordre des actes n'est pas nécessairement déterminé à l'avance. Il y a une comparaison possible avec une succession causale objective. Quand vous lancez une boule, vous êtes certain, si vous visez bien, que vous allez atteindre la boule que vous visez, sauf obstacle. Mais quand vous observez une maison, par exemple, et ça c'est un exemple de Kant, vous avez une succession perceptive qui n'est pas orientée unidimensionnellement. Vous pouvez prendre des vues différentes d'une maison dans un ordre qui n'est pas strictement linéaire. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Il faut ensuite distinguer travail technique et travail artistique, et c'est l'argument de Kant, et je vous en donne ici une brève synthèse, c'est des analyses de Gérard Lebrun, qui touchent à ce problème précis de comment peut-on produire du sens dans une œuvre, comment produire un contenu qui ne soit pas entièrement fermé sur lui-même et déductible d'intention initiale et d'un concept. C'est le problème numéro un de Kant. L'art n'est pas la simple application d'un concept. L'œuvre d'art doit, la philosophie, et en l'occurrence cet auteur, Gérard Lebrun, être assez déconcertante pour que je n'y retrouve pas simplement la marque du métier, mais aussi assez maîtrisée pour qu'on ne puisse pas penser qu'il s'agit d'un produit du hasard. Il faut donc qu'il y ait une finalité organisatrice, mais qu'il ne soit pas une ratio recta factibilium. Cette finalité organisatrice ne peut pas être la direction de l'opération de création artistique sous le contrôle d'un concept ou d'une idée directrice. Elle ne peut pas être ça, simplement. Finalité sans fin veut bien désigner ce point d'équilibre entre une action dotée d'une intention et un agir expressif qui ne se déduit pas simplement d'un contenu intentionnel préalable. Et la question, c'est ensuite, mais comment donc l'imagination de l'artiste peut-elle se soustraire à la contrainte de l'entendement, c'est-à-dire cette faculté précisément de mener un raisonnement, de créer des concepts, d'unifier les données du sensible auquel on a affaire? Ces données, soit ce qu'on observe, soit des situations qu'on veut décrire ou mettre en ordre, en les ordonnant à l'aide de catégories et du langage, bien sûr. Et comment donc peut-on laisser travailler l'imagination, en même temps agir selon les règles de l'entendement, et tout ça pour que le travail ait l'allure d'une libre création? En fait, la solution qu'il faut explorer, elle passe par l'argument de l'expression. L'expression que met en œuvre l'artiste, Kant parle du génie qui est là, en quelque sorte l'incarnation de la faculté supérieure de créer selon son modèle, qui a toujours un côté normatif. L'expression que met en œuvre l'artiste n'est pas simplement l'énoncé d'idées préconçues et bien formées, de concepts ou d'arguments dûment organisés préalablement, et dont la production et puis la présentation dans la matière créée serait entièrement sous le contrôle de la faculté de raisonner, de l'entendement. Le poète utilise des mots et un langage qui véhiculent bien sûr des significations et donc des contenus conceptualisables, mais aussi beaucoup d'inexprimables, des contenus indéterminés, inaptes à toute présentation adéquate par des concepts et pourtant communicables. C'est ce qui figure dans les citations que je vous donne ici, que je ne vais pas toutes lire. Simplement celle-ci, pour aller dans le prolongement de ce que je viens de dire, le génie ou l'artiste doit se plier aux exigences du goût, c'est-à-dire à la relation avec un public possible. Et je vous rappelle que dans ces théories-là, un des plaisirs que déclenche l'art, c'est le plaisir de la sociabilité, c'est-à-dire la capacité d'en parler. On augmente son plaisir en échangeant avec autrui, pour confronter son point de vue, pour affiner sa propre perception de ce dont on a fait l'expérience, etc. Certes, l'artiste et le génie doivent se plier aux exigences du goût, mais ça n'est pas lui enjoindre de composer avec la mode ou avec une actualité immédiate qui priverait son œuvre d'un quelconque horizon ultérieur. Soit vous vous dites « je vais travailler sur la matière immédiate et je vais la capter intégralement et mon œuvre se réduira simplement à cette contingence », mais si l'œuvre peut dépasser le cadre dans lequel elle est produite, ça c'était le casse-tête de Marx et de sa production et de sa théorie matérialiste qui ne fonctionnait pas pour l'art, puisqu'il disait « les beautés de l'art grec sont éternelles, pourtant elles sont le produit d'une société esclavagiste ». Si on dit « elles ne sont que le produit d'une société esclavagiste », c'est fini. Elles sont réductibles à ça, elles sont réductibles à des causes dont elles expriment totalement l'information dans leur contenu. Si elles dépassent ce cadre, est-ce que c'est simplement parce que des institutions ont pris en charge la gestion de la mémoire du patrimoine, ou est-ce que c'est parce que quelque chose, un noyau essentiel de réalisation, permet de sortir du contexte et d'aller au-delà de ce contexte? La réponse de Marx était plutôt cette réponse numéro 2, quelque chose qui continue d'inspirer les artistes et le public aujourd'hui, précisément parce que tout ne peut pas être réduit à un concept ou à une formule causale initiale entièrement déterminante. C'est ça la question. Donc, il faut en quelque sorte constater, dit Lebrun après Kant, qu'il n'est pas de belle œuvre si elle n'est limitée par une exigence minimale de communication. Autrement dit, si on crée, c'est pour communiquer aussi, ou alors on garde ça pour soi et puis c'est fini. Et en même temps, l'expression doit paraître d'autant moins contingente, c'est-à-dire elle doit paraître candidate à une universalisation ou à une généralisation possible de l'expérience à d'autres, ne serait-ce que par la communication avec autrui, d'autant moins contingente qu'elle n'est pas l'illustration d'une pensée formulable. Et, dit Gérard Lebrun, commentant Kant, le génie n'est rien d'autre, ou l'artiste, si vous voulez, pour réduire un peu la voilure, l'artiste n'est rien d'autre que ce point d'équilibre. C'est ça, en quelque sorte, un des noyaux d'invariance qui est reconnu par des auteurs très différents. Et dans la liste, j'ai fait figurer à l'instant même Kant ou Marx lui-même. Donc, nous pouvons, à travers ce genre de raisonnement, disposer d'explicitations de la pensée complexe. D'ailleurs, dans la troisième critique de Kant, la critique de la faculté de juger, le raisonnement est très très sophistiqué parce qu'il a d'autres enjeux que d'analyser l'art et d'abord le goût ou le jugement de goût du spectateur, et puis ensuite la façon dont se comporte l'artiste dans cette situation. Il a d'autres enjeux qui sont liés à sa propre construction systématique et à la relation avec les deux autres critiques, de la raison pure et de la raison pratique, et à la relation avec le monde naturel et le monde du vivant. Bon, je ne vais pas développer, sinon le cours serait déjà entièrement cannibalisé par ce développement. Mais on s'approche un peu mieux de ce que veut dire « finalité sans fin ». Mais tout ça ne nous dit évidemment pas encore comment l'artiste va travailler. Mais seulement, ça nous dit qu'il n'applique pas simplement des règles, ni qu'on puisse extraire, a posteriori, des recettes pour créer à partir de ce qu'on voit. Et plutôt qu'un modèle à imiter, le travail d'autrui, et ça c'est une expression assez formidable de Kant, parce qu'il doit dire, mais comment est-ce que les artistes peuvent influencer autrui? Comment est-ce qu'une œuvre fantastique peut déclencher chez un autre artiste quelque chose comme un comportement qui ne doit pas être imitatif et néanmoins qui doit être relié à ce qui a été fait, puisque l'histoire se construit comme ça. Elle se construit par des lignages, pour emprunter un vocabulaire de Andrew Abbott. Eh bien, le travail d'autrui doit être une référence. Le mot est à son caractère d'indétermination. Et en même temps, c'est un héritage. Ce sont les mots de Kant. Autrement dit, c'est la fameuse question de la durabilité, mais qui contient aussi ça, c'est-à-dire votre travail d'artiste va être mis en situation de relation avec d'autres pour des comparaisons, des transformations, des recombinaisons, mais pas des imitations. Donc, il n'y a pas de règle à extraire simplement. Mais ça n'est donc pas simplement une application quasi déductive d'idées préalablement bien formées et qui serait développée une fois jaillie de l'esprit du créateur, sinon disparaîtrait le travail sur la forme, qui est précisément ce travail complexe de mise en relation du tout et des parties de l'œuvre, ce qui nous rapproche de ce qu'est d'ailleurs un organisme vivant, ce modèle obsédant de la nature, dont il faut imiter non pas les produits, comme dans la peinture figurative, si vous voulez, mais dont il faut imiter ou adopter la force génératrice de créer du nouveau. Ça, c'est un motif qui est fondamental dans le tournant de la philosophie à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle. Mes collègues chimistes ici parleraient de biomimétisme. Et la relation à la nature, aujourd'hui, a changé profondément par rapport au temps où on s'est dit la technique et la domination de la nature vont nous émanciper. Aujourd'hui, on n'en est plus exactement là. Donc on peut revisiter toute cette discussion et ces débats esthétiques et la relation avec les modèles naturels peut-être d'une toute autre manière aujourd'hui. Mais je laisse ce point de côté. Cela dit, la valeur d'originalité est dite aussi que chaque personnalité authentiquement créatrice doit produire, exprimer quelque chose d'unique et que cette production résulte de cette situation complexe d'accord entre ce que Kant appelle les facultés impliquées dans le travail, l'entendement et l'imagination. L'un sans l'autre, c'est-à-dire l'entendement sans l'imagination, c'est le travail technique de l'art médiéval, vous l'avez compris. L'autre sans l'un, c'est-à-dire l'imagination sans l'entendement, sans la recta ratio factibilium ou agibilium, c'est le chaos. C'est l'aléa de la bonne fortune, des idées qui jailliraient mais qui ne seraient pas contrôlées et développées soigneusement et consciemment dans les formes et dans un matériau expressif. Donc, en fait, nous sommes vraiment devant une tension entre des forces qui doivent entrer en composition, c'est ce que Kant appelait l'accord des facultés, et selon une économie qui ne peut pas être complètement décrite ou expliquée. Sinon, nous aurions déchiffré les règles du travail. Hier, je parlais avec Jean-Pierre Changeux, donc, et il m'expliquait que Matisse ne travaillait pas comme Picasso. Et lui plaide évidemment pour une analyse, c'est le propre de la science, qui pousse le plus loin possible l'explication causale et sur la base d'informations de plus en plus fines et de plus en plus précises. Alors je lui dis, et si donc tu mets tes deux artistes dans une machine et tu fais des PET scans, tu observes leur cerveau, est-ce que tu vas en tirer des conclusions pertinentes? Et il m'a fait évidemment la meilleure réponse possible, c'est-à-dire la masse des facteurs qui entrent en jeu dans le processus de travail est telle que l'indétermination est quasi ontologique, mais ce qui n'empêche pas qu'on veut aller plus loin. Après tout, quand on dit aux machines « faites-nous donc un Van Gogh ou faites-nous donc un Matisse », les machines ne s'embarrassent pas d'un modèle causal. Elles prennent tout ce qu'il y a et elles en tirent des algorithmes, des principes générateurs d'une œuvre qui correspond à ça. Mais disons qu'elles forment une sorte de modèle imitatif supérieur qui n'est pas simplement reproductif, mais qui ne fait que capter la totalité de l'information pour engendrer quelque chose qui est dans la directe trajectoire. Si ça n'est que ça, l'invention, évidemment, ça ne sera pas non plus glorieux. Mais c'est un peu mieux que de faire simplement une stricte reproduction, bien sûr. Cela dit, la collision entre des facteurs déterminants extraordinairement nombreux et extraordinairement sensibles à des variations microscopiques ou macroscopiques, c'est ça, évidemment, le grand problème. Et c'est ça qui nous pousse à explorer sans arrêt cette question qui nous intrigue tellement. Premièrement, qu'est-ce que c'est que produire du nouveau, et deuxièmement, mais comment est-ce que je m'y prends au juste? Si je le savais mieux, j'en produirais davantage.
Sur une assiette bien ronde, en porcelaine réelle, une pomme pose. Face à face avec elle, un peintre de la réalité essaie vainement de peindre la pomme telle qu'elle est. Mais elle ne se laisse pas faire, la pomme. Elle a son mot à dire et plusieurs tours dans son sac de pommes. La pomme. Et la voilà qui tourne dans son assiette réelle, sournoisement sur elle-même, doucement sans bouger. Et comme un duc de Guise, qui se déguise en bec de gaz parce qu'on veut malgré lui tirer le portrait, la pomme se déguise en beau fruit déguisé. Et c'est alors que le peintre de la réalité commence à réaliser que toutes les apparences de la pomme sont contre lui. Et comme le malheureux indigent, comme le pauvre nécessiteux qui se trouve soudain à la merci de n'importe quelle association bienfaisante et charitable et redoutable de bienfaisance, de charité et de redoutabilité, le malheureux peintre de la réalité se trouve soudain alors être la triste proie d'une innombrable foule d'associations d'idées. Et la pomme en tournant évoque le pommier, le paradis terrestre, et Ève et puis Adam, l'arrosoir, l'espalier, parmentier, l'escalier, le Canada, les Hespérides, la Normandie, la Rainette et la Pie, le serpent du jeu de paume, le serment du jus de pomme, et le péché originel et les origines de l'art et la Suisse avec Guillaume Tell, et même... et même Isaac Newton, plusieurs fois primé à l'exposition de la gravitation universelle. Et le peintre étourdi perd de vue son modèle et s'endort. C'est alors que Picasso, qui passait par là, comme il passe partout, chaque jour comme chez lui, voit l'assiette et la pomme et le peintre endormi. Quelle idée de peindre une pomme, dit Picasso. Et Picasso mange la pomme, et la pomme lui dit merci, et Picasso casse l'assiette et s'en va en souriant. Et le peintre, arraché à ses songes comme une dent, se retrouve tout seul devant sa toile inachevée, avec au beau milieu de sa vaisselle brisée, les terrifiants pépins de la réalité.
Le Collège de France et France Culture vous présentent le sociologue Pierre-Michel Minguer. Comment achever une œuvre ? Aujourd'hui, qu'est-ce que produire du nouveau ?
Alors, on va demander donc... à la fois simplement et très modestement, vous l'avez compris, comment donc travaille l'artiste pour parvenir à cette situation de création expressive qui s'écarte d'une simple communication d'idées claires et bien formées et d'une simple application de règles bien spécifiées. Ça, communiquer des idées et communiquer des règles, c'est la matière de l'enseignement. Mais l'enseignement, ça n'est que transmettre, la recherche ou la création, c'est produire. C'est ça qui fait une grande différence. Et donc, le dilemme hante en fait les analyses du processus créateur depuis la fin du XVIIIe siècle. Il faut bien que l'activité créatrice emprunte une direction et s'invente un profil pour orienter le cheminement de l'action vers quelque chose qui est un terme, mais elle ne se résume pas à une accumulation d'idées, de gestes auxquels aucun principe de sélection ne donnerait ni forme ni formule d'achèvement. Et d'un autre côté, la simple hypothèse d'une forme de contrôle du cours de l'activité par un principe directeur paraît bien entrer en contradiction radicale avec la nature du processus. Le processus doit bien faire l'objet de quelque chose qui est un contrôle, mais il ne peut pas être sous l'arche d'un contrôle permanent, orienté du début à la fin en fonction d'un but, sinon on manque cet aspect de génération de la nouveauté et d'imprévisibilité, si on spécifie d'emblée tout ce que ça pourrait bien être au bout. Et cet argument, il a été indéfiniment répété et présenté dans de multiples formulations. Elles ont toutes en commun d'affirmer la directionnalité et de récuser la prévisibilité et le contrôle. C'est un des domaines de liberté, disons. Et c'est au prix de cette tension que l'activité créatrice est possible et qu'elle a ses propriétés intrinsèques à la fois de liberté d'autodétermination et d'intensité motivationnelle pour l'artiste, et ses propriétés extrinsèques d'originalité qui situent la production dans un espace infini de différenciation. Et en même temps, elle a cette propriété qu'on cherche sans arrêt comment contrôler un peu mieux ces aspects pour éviter de gaspiller des ressources à courir après une nouveauté qui serait intéressante. Et c'est ce frottement des forces et ce jeu sur quel degré de liberté, quel degré de contrôle ou d'exploitation de l'inconnu après l'avoir exploré qui est au cœur de ces systèmes d'action. Cet argument de point d'équilibre tendu et de tension créatrice sert d'ailleurs toujours à soutenir aussi une conception générale de la praxis, c'est-à-dire de toute activité humaine. Conception qui agit en fait comme une critique de la rationalité calculatrice, planificatrice et utilitariste. Ce que nous admirons le plus dans la production humaine, autrement dit ce qui satisfait des désirs et besoins supérieurs de l'humain, n'obéit pas exactement à cette rationalité, du moins pas de la manière dont la rationalité productrice agit dans des domaines qui exigent un calcul des moyens et des fins pour des résultats prévisibles, justement parce qu'il s'agit de la satisfaction de besoins supérieurs aux besoins premiers. Castoriadis, pour en citer un, a vu dans l'activité de l'artiste, mais aussi dans l'activité de connaissance, une activité qui est à la fois contrôlée par le sujet, mais qui est intrinsèquement incertaine de ses résultats, orientée vers quelque chose sans que le cours soit absolument maîtrisé. Comme il dit, lorsqu'un artiste commence une œuvre, il sait et il ne sait pas, a et non a, il sait et il ne sait pas ce qu'il va dire. En fait, ce motif argumentatif était déjà présent chez Durkheim. Je l'ai examiné dans un chapitre d'un livre de Travail créateur. Je vous signale d'ailleurs que Durkheim avait lu extrêmement près Kant. Il a été formé en philosophie. Et c'est un très grand lecteur de la philosophie classique et du XVIIIe siècle, notamment de Kant, de Rousseau, de Montesquieu. Il a consacré des cours à ces auteurs. Alors, juste un mot sur ces questions de théorie générale de l'activité dans laquelle s'insère le monde de l'art. L'art, pour Durkheim, c'est un domaine d'activité ambivalent. C'est une activité qui est finalisée, donc qui n'est pas irrationnelle, mais une activité sans but déterminé, ce qui garantit son libre exercice, mais, et c'est là le problème, qui produit aussi des excès possibles. Et Durkheim est très attentif aux deux. Je vais vous montrer comment. D'abord, le côté productif et heureux, c'est que l'art peut être, et c'est ce que dit Durkheim, assimilé à ce qu'il appelle un luxe. Cette notion lui sert à caractériser la relation entre la dimension sociale et la dimension économique des activités qui ne sont pas directement réductibles à leur fonction productive. On a déjà vu ce motif chez Weber aussi, du caractère anti-économique de certaines activités, dont l'art. Et l'assimilation à un luxe, ce mot de luxe, il a une longue histoire, une sémantique complexe. Ça n'est pas simplement nos industries du luxe d'aujourd'hui, même s'il peut y avoir des liens, bien sûr. Cette assimilation à luxe lui sert à suggérer que les activités qui ne sont pas étroitement utilitaires, c'est-à-dire qui ne sont pas gouvernées par une finalité directe, ont une place importante dans les systèmes sociaux et économiques. Mais, on va le voir, la notion désigne aussi les excès de l'investissement dans des activités dispendieuses. Et donc, l'art compris comme un luxe relève d'une énergétique individuelle délivrée de ses limites ordinaires. Ce sont les citations que je vous présente ici. Des actes, il cite héroïsme, sainteté, mécénat artistique, altruisme, ne sont ajustés à aucune fin vitale. En un mot, sont un luxe, c'est-à-dire débordent l'utilitarisme. C'est-à-dire qu'ils sont du domaine de l'art. Donc, vous voyez cette vision généralisante de la praxis. Après que nous avons astreint une partie de notre énergie physique et intellectuelle à s'acquitter de sa tâche journalière, nous aimons à la laisser se jouer en liberté, la bride sur le cou, à la dépenser pour le plaisir de la dépenser, sans que cela serve à rien, sans que nous proposions aucun but défini. C'est en cela que consiste le plaisir du jeu, dont le plaisir esthétique n'est qu'une forme supérieure. Et je ne vous lis pas tout le reste, mais il part de mouvements spontanés et libres. Vivre, c'est avant tout agir, agir. Donc le vocabulaire de l'action, vous l'avez compris, est présent en permanence. Ça n'est pas simplement faire, c'est agir. Agir sans compter pour le plaisir d'agir. Voilà ce qu'écrit Durkheim dans Jugement de valeur et de réalité. L'autre texte est issu de la division du travail social, qui est sa première grande œuvre. Et ces textes-là sont plus tardifs. Donc il y a une permanence de la pensée durkheimienne sur le monde de l'art. Mais il y a une deuxième dimension, c'est qu'il y a un risque dans ces activités. Quand nous passons du plan individuel au plan collectif, l'imagination, qui est la faculté, comme dit Durkheim, la plus libre et qui est la source par excellence de l'invention, pousse presque irrésistiblement les individus à des comportements excessifs. Ni des buts définis, ni des règles observables ne bornent plus l'énergie ainsi libérée. Il a fallu qu'elle le soit pour que cette activité soit libre et qu'elle soit de l'ordre de l'agir et de l'agir sans compter, on est bien d'accord, mais évidemment, elles peuvent nous entraîner hors de la sphère de la vie morale et des idéaux régulateurs de la vie collective. Ça, c'est quand on passe donc du plan individuel au plan collectif. Ce qui est bon pour moi, quand je veux être totalement libre d'agir, est-il bon pour le collectif, pour le fonctionnement de la société? Et il y a là, selon Durkheim, une menace qui est contenue dans l'art, c'est celle de l'épanouissement sans limite de la singularité contre les contraintes des lois du groupe, et ce qui révèle des forces qui existent au fond au sein de chaque individu. Chaque individu a l'intention d'avoir la plus grande liberté possible et d'aller le plus loin possible dans l'exercice de cette liberté, mais ces forces doivent être aussi contenues par le groupe. Et voilà la citation, « Toute activité esthétique n'est saine, donc il y a une dimension normative, que si elle est modérée. Le besoin de jouer, d'agir sans but et pour le plaisir d'agir ne peut être développé au-delà d'un certain point sans qu'on se déprenne de la vie sérieuse. » Vous voyez, Durkheim, là, prend de nouveau son bâton de théoricien de l'ordre social ou d'une cohérence de la société. Une trop grande sensibilité artistique est un phénomène maladif qui ne peut pas se généraliser sans danger pour la société. Parce que le superflu a toujours tendance à l'excès, la liberté a toujours tendance au débordement. Et donc, il faut une économie de la limite. Si l'activité esthétique est respectueuse de limites, si elle est pratiquée avec modération, ni l'individu ni la société ne courent de risque, selon ce raisonnement. Mais, vous me direz, mais comment est-ce que l'activité esthétique peut se laisser contenir dans une économie des limites et dans une économie de la modération? Est-ce que le besoin d'agir sans but n'est pas irrémédiablement porté à l'excès? Et quelle serait la fonction de l'imagination si d'emblée elle était autoritairement limitée? Et on a dans le raisonnement de Durkheim sans arrêt l'entrelacement entre ces deux lignes d'argumentation. On a donc un système d'arguments qui à nouveau met en tension deux forces, l'économie individuelle des facultés créatrices et la rupture possible des limites de l'ordre individuel transposé à l'ordre collectif. Donc, évidemment, face à ce genre de raisonnement à la fois puissant et qui intrigue, la question qu'on aimerait poser à Durkheim, c'est « Mais comment donc l'artiste doit-il pouvoir travailler au mieux en fonction de cet objectif d'équilibrage entre des forces en tension ?» Donc, on va maintenant revenir à nos artistes. Nous n'avons plus Durkheim. Une fois cette tension des forces, invention libre et contrôle, reconnue comme un puzzle élémentaire, parce qu'il circule dans toute cette littérature, donc c'est un schème très puissant. Comment peut-on enrichir l'analyse pour avancer dans l'élucidation du problème? Le raisonnement consiste généralement à considérer que le problème n'est pas celui de laisser l'imagination travailler, si des conditions sont réunies, c'est-à-dire pas de contraintes a priori, sauf celles que peut se donner l'artiste lui-même pour éviter le chaos imaginatif, mais de savoir comment l'individu qui est autonome, c'est-à-dire qui se donne à lui-même la loi de l'organisation de son travail, son nomos, jusqu'à un certain point, évidemment, dans un contexte où il a affaire à des contraintes, bien sûr, comment l'individu s'y prend pour contrôler lui-même une activité qui doit être soustraite à la spécification du résultat et en même temps qui doit avancer. Donc la question revient à étudier cette nature du contrôle qui règle le cours incertain et tâtonnant de l'activité. Alors pour l'explorer, je vais partir d'un texte d'un philosophe analytique américain qui a vécu au XXe siècle, entre 1915 et 1985, Monroe Beardsley. C'est un philosophe dont l'un des articles qui a été écrit avec William Wimsatt, qui était un universitaire enseignant d'anglais et de théorie littéraire, hein, dont l'un des articles qui a pour titre « The Intentional Fallacy », qui est paru en 1946, fut un des piliers de la théorie littéraire du New Criticism. Dans cet article, je le dis brièvement parce que ça va se relier à mon argument, les auteurs s'en prennent à la tradition interprétative qui cherche à cerner le sens des œuvres, notamment littéraire, en recherchant les intentions de l'auteur. Si je connais les intentions de l'auteur, alors je sais quel sera le sens exact de l'œuvre. Donc le problème est juste de savoir quelles sont les intentions de l'auteur, mais le reste se déduira. Et contre ça, Beardsley lui-même développe une charge anti-intentionnaliste. Et il s'attaque donc à deux arguments. Un, celui qui attribue une certaine signification à l'œuvre au motif que l'artiste avait l'intention d'obtenir cette signification. Donc, il avait une image mentale très précise ou il avait un contenu très précis à exprimer qu'il pouvait contrôler puisque ça va développer son œuvre et que je pourrais reconstituer la signification à travers ça. Et deuxièmement, l'argument que celui qui évalue l'œuvre en fonction de sa capacité à exprimer l'intention de l'artiste. Cet argument-là aussi, il veut le défaire. On peut évaluer une œuvre en fonction de cette manière de bien diriger le cours intentionnel de son travail. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les débats qu'a suscité cet article, qui est d'ailleurs un des articles très très cités de la théorie littéraire et de la philosophie esthétique. Il a près de 2000 citations, si vous regardez Google Scholar, comme je l'ai fait hier. Antoine Compagnon l'a d'ailleurs beaucoup discuté dans son livre « Le démon de la théorie », je vous y renvoie. Mais je retiens ici cette question de l'intentionnalité et sa relation avec le problème de déterminer s'il existe une conception de la création comme activité qui placerait le travail sous la direction de ce premier moteur, en quelque sorte, l'intention, et de tout ce que cette cause permet d'organiser dans le travail. Autrement dit, je me déplace vers l'idée que l'intention, c'est une forme d'entendement à sa manière. Et donc, si je tire trop dans ce sens-là, je vais peut-être abolir le cours processuel de l'action, qui est que quelque chose d'inattendu doit arriver suffisamment souvent pour que l'activité soit intrinsèquement à la fois tâtonnante et enrichissante. Alors, il y a un article dans lequel Beardsley explore cette question du côté de la création. Il s'appelle « On the Creation of Art », tout simplement. Il date de 1965. Donc, cette fois-ci, il ne s'intéresse pas à la signification des œuvres, mais à la production de l'œuvre. Et le problème qu'il veut traiter dans cet article, c'est « S'agissant d'un processus qui doit se mouvoir dans une direction désirable, il importe de concevoir que l'aléa des heureux accidents d'invention existe, certes, et doit être préservé et chéri comme une composante essentielle. » Là, il fait référence à un célèbre modèle de Graham Wallas qui a été repris par Jacques Adamard, un mathématicien qui a été professeur ici, sur le phénomène de l'invention, notamment en mathématiques et en sciences, mais qui a été beaucoup utilisé aussi dans les arts. Mais donc, on peut bien faire une place à l'aléa, mais l'aléa ne peut pas masquer la nécessité d'un contrôle au moins partiel. Donc, toujours cette question de tension entre des forces. Et avant de suggérer une solution, Beardsley va d'abord critiquer deux positions qui conduisent pour lui à des impasses théoriques, ce qu'il appelle la théorie propulsive et ensuite la théorie finaliste du processus créateur. Alors, la théorie propulsive, elle dit que le facteur qui contrôle le processus intervient avant le commencement du travail et conserve une influence causale déterminante tout au long du processus. C'est comme si je disais « j'ai une idée, je vais l'appliquer » et en avant. Pour la caractériser, Beardsley cite celui qui tient pour l'auteur de la forme la plus populaire de cette théorie, c'est un philosophe américain qui s'appelle Collingwood, et qui distingue ainsi la nature expressive de l'activité artistique par rapport à une activité artisanale contrôlée par une simple technique. Dire de quelqu'un qu'il exprime une émotion revient à dire ceci, dans un premier temps, il a conscience d'avoir une émotion, mais ne sait pas consciemment ce que c'est que cette émotion. Donc, je sais que j'ai une émotion, mais je ne connais pas le contenu exact de cette émotion. Ce genre de travail analytique est classique en philosophie analytique américaine. La seule chose dont il soit conscient est une perturbation due à une excitation, dont il ressent la présence en lui, mais dont il vient dans la nature. L'acte d'expression est donc une exploration de ses propres émotions. Il cherche à découvrir ce que sont ses émotions, donc il y a bien une dimension heuristique du travail. Je ne sais pas tout au départ, mais je sais qu'il existe certainement ici un processus orienté, un effort qui est orienté vers une certaine fin, mais la fin n'est en rien quelque chose qui a été prévu ou préconçu et à l'obtention de quoi des moyens appropriés pourraient être appliqués grâce à la connaissance que nous avons de son caractère particulier. Donc Collingwood reconnaît bien qu'il y a quelque chose d'indéterminé dans le cours de l'action, mais il dit aussi, il y a quelque chose au départ qui va tout déclencher, qui va d'une certaine manière tout contrôler. Et mon travail d'artiste, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que ce contenu émotionnel et comment le transformer en mots, en signes, en sons, en éléments visuels, etc., pour connaître exactement la fonction organisatrice de ce premier moteur, de ce déclencheur. Et Birdsley, face à ce genre de position, dit simplement, bon, c'est un argument qui est très imprécis et qui est très monolithique. Il a néanmoins les caractères d'un facteur propulsif initial, dont le processus doit clarifier les contours, mais la spécification de l'argument est très allusive. Qu'est-ce que c'est que ce contenu émotionnel qui est supposé guider le processus? Donc, ça ne marche pas. Passons à la position inverse ou la position finaliste. Il l'a construit à partir d'un texte et de différents textes, mais notamment d'un philosophe qui s'appelle David Ecker, qui n'a pas laissé un nom considérable dans la philosophie, mais qui a beaucoup travaillé sur les dimensions de formation dans les institutions éducatives, de formation à l'art. Donc il est plutôt du côté de la transmission, de la manière de créer, de la manière de faire de l'art dans les écoles et dans les universités. C'est l'essentiel de sa production est lié à ça. Mais il a écrit un certain nombre de textes, notamment celui-ci que je cite, « The Artistic Process as Qualitative Problem Solving », qui est celui dont Birdsley va vouloir critiquer les arguments. Et l'argument que développe Ecker, et qui est donc assimilé à cette théorie finaliste, il est contenu ici, alors je l'ai mis en anglais peut-être un peu paresseusement, mais voilà. Ecker cite le cas de Henry Moore et des déclarations de Henry Moore, ce qu'il appelle le « shop talk », la discussion de boutique, les déclarations des artistes quand ils doivent parler de leur travail, c'est « comment est-ce que je fais exactement ?» Alors ça peut être un langage intérieur, mais c'est aussi une manière de parler à autrui de ce qu'on fait. Et qu'est-ce que dit Henry Moore à propos des problèmes qui me concernent de temps en temps ?« Moi, sculpteur, je dois m'efforcer continuellement de penser à la forme et de l'utiliser dans sa totale complétude spatiale. » Et donc le sculpteur sait, quand il regarde d'un côté de la sculpture qu'il est en train de créer, à quoi ressemble l'autre côté, et lui-même s'identifie avec le centre de gravité, la masse, le poids, etc. Il réalise son volume et en même temps que l'espace déplace de l'air, ou chasse de l'air. Moore donc parle des problèmes de la sculpture. C'est ce vocabulaire du problème qui émerge et c'est ça qui intéresse Ecker et qui est l'objet de la critique de Birdsley. Je commence parfois un dessin sans un problème préconçu à résoudre, avec simplement le désir d'utiliser un crayon et du papier et de tracer des lignes, des formes, et avec aucun but précis. Mais à mesure que mon esprit s'investit, ce qui est produit arrive là où une idée commence à devenir consciente et à se cristalliser. Et donc, à ce moment-là, un contrôle et une mise en ordre commencent à apparaître, à advenir. Ou alors, je commence avec un ensemble de motifs où, pour résoudre le problème, je prends un bloc de pierre et j'en fais un problème de sculpture que je me donne à moi-même et j'essaie de construire un ordre de relation entre les formes. Voilà le raisonnement. Donc, il y a à la fois une variété de situations que Henry Moore déclare, donc je ne suis pas enfermé dans un seul schéma, et en même temps, il y a ce caractère émergent de la situation et aussi l'idée que, en travaillant sur moi-même et à coup de réflexivité, je vais progressivement prendre le contrôle de la situation. Ça paraît assez réaliste comme description et pourtant, c'est ce que veut démonter Birdsley. Et qu'est-ce que dit Birdsley à propos de tout ça? J'ai encore une citation d'Ecker qui développe un argument à propos de ce raisonnement de Henry Moore. Je ne vais pas le citer intégralement, mais il insiste beaucoup sur l'aspect de contrôle sur le matériau. Il y a donc des moyens et une fin, mais il appelle cette fin une fin qualitative. Quand il est question d'art cubiste, impressionniste, expressionniste, on se place dans une situation d'atteindre à une certaine qualité de production à travers des mécanismes de contrôle, une méthode, et une directionnalité. Et tout ça fait l'objet d'un qualitative ordering, une mise en ordre qualitative. Et l'intelligence de l'artiste, c'est ça. C'est bien une affaire d'intelligence, donc il y a bien de l'entendement, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est une intelligence dans l'ordonnancement des qualités. Ce mot de qualité est un mot qui est là, mais qui n'est pas considérablement spécifié. Donc, on peut penser que, d'une certaine manière, cet auteur se dirige vers une manière de décrire classiquement un processus dans lequel on a affaire à des choix, et en même temps, les choix sont innombrables, et qu'on peut les décrire en termes de problèmes à résoudre. C'est aussi le vocabulaire qu'emploie, par exemple, Herbert Simon dans son livre « Les sciences de l'artificiel », et il prend le cas de l'art pour dire « Est-ce que c'est l'objet de problèmes ? Est-ce qu'on peut les décrire, les comportements de l'artiste, en termes de problèmes ?» Et il dit « La seule difficulté de la question que je pose, c'est en fait, ce sont des problèmes qui sont mal formés. Il y a des problèmes qui sont bien structurés et des problèmes qui sont mal structurés. » Et il développe cet argument. Et il dit « L'art, c'est un ensemble de problèmes qui sont mal structurés. » Mais on peut éventuellement les décomposer en sous-problèmes pour essayer de leur donner un peu plus de structure. Ça ressemble un peu à ce que dit ici Ecker, c'est-à-dire je peux ordonner le problème, j'ai une directionnalité et je dois développer ce qu'il appelle une intelligence, c'est-à-dire un mécanisme de contrôle qui maximise aussi les bénéfices de ce que Kant aurait appelé l'entendement, mais à travers une mise en ordre de qualité, au pluriel. Et voilà ce qui est la matière de la discussion critique de Beardsley. Beardsley discute cet usage finaliste de la notion de problème, et notamment en commentant la première citation que je vous donnais de Henry Moore, et Beardsley remarque, mais qu'est-ce que c'est qu'un problème si on examine ce que dit Moore ? En fait, ça peut être comment faire un bon dessin en me servant des lignes que j'ai déjà dessinées, ou bien comment pourrais-je faire une bonne sculpture d'une figure couchée, ou bien encore comment faire une bonne sculpture à partir de ce morceau de marbre. Ce sont les exemples de Henry Moore. Et Beardsley ajoute, il est très étrange d'appeler ça des problèmes, ce ne sont que des tâches à faire que l'artiste doit accomplir pour exercer son art. Et dans chacune de ces questions apparaît tout simplement une question sous-jacente, c'est « Et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'ai un bloc, qu'est-ce que je fais ? J'ai commencé à dessiner, qu'est-ce que je vais faire ensuite ?» Donc, c'est effectivement une bonne manière de prendre la citation, c'est de dire « Mais qu'est-ce qu'elle contient au juste ?» Des banalités et puis aussi un mécanisme sous-jacent sur lequel je n'ai pas beaucoup de réponses.
C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le sociologue Pierre-Michel Minger, sa série « Comment achever une œuvre ?» Aujourd'hui, qu'est-ce que produire du nouveau ? Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Sa leçon inaugurale a été publiée chez Fayard en 2014 sous le titre « La différence, la concurrence et la disproportion, sociologie du travail créateur ». La même année a été édité en poche en point seuil son ouvrage « Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain ». Et plus récemment, il a dirigé l'ouvrage collectif « Le talent en débat » au PUF en 2018. Réalisation Laure-Hélène Planchet. Coordination et présentation Meryl Meneghetti. Lundi, nous resterons en compagnie de Pierre-Michel Minger et nous poursuivrons notre enquête sur les mystères du processus créateur. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.